Phare FM Grenoble présente une décennie d'histoires inspirantes, de communauté et d'unité avec la coordination Rhône-Alpes de Sport et Foi. De terrain de football jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, célébrons ensemble 10 ans d'événements sportifs. Dans ce nouvel épisode, je reçois à nouveau et pour la dernière fois Steve Jones et Mimosette Ngamsi, elle est para-haltérophile. Nous allons parler des Jeux Paralympiques de Paris 2024 comme une opportunité pour l'Église française.
Merci en fait à la station radio Phare FM pour m'avoir donné l'occasion et le privilège de pouvoir partager pendant cette période. Oui, cette dernière émission, j'ai donné en fait le titre « Les Jeux Paralympiques, une opportunité pour l'Église française ». Et je voudrais commencer avec un passage biblique, si je peux, cette fois de l'Ancien Testament. Donc, J'invite les auditeurs à l'écoute de la parole de Dieu, de Samuel dans l'Ancien Testament et le chapitre 9. « Un jour, le roi David demande, est-ce que quelqu'un de la famille de Saul est encore en vie ?» Je voudrais agir envers lui avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saul a eu un serviteur appelé Siba. On le fait venir devant le roi David. Et le roi lui demande, « C'est toi, Siba ?» Il répond, « Oui, c'est moi. » Le roi dit, « Est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la famille de Saul ?» Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même, avec bonté. Siba répond au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé des deux jambes. » Le roi demande, « Où est-il ?» Siba répond, « Il est chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodabar. » Le roi David l'envoie chercher à Lodabar. Quand Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saul, arrive chez David, il s'incline jusqu'à terre devant lui. Le roi David lui dit, « C'est toi, Mephibosheth ?» Il répond, « Oui, c'est moi. » David lui dit, « N'aie pas peur, je veux agir envers toi avec bonté à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saul, et toi, tu mangeras tous les jours à ma table. » Mephibosheth s'incline et dit, « Je suis comme un chien mort. Pourquoi veux-tu prendre soin de moi ?» Mais le roi fait venir Siba, serviteur de Saul, et il lui dit, « Je donne à Mephibosheth, le petit-fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saul et toute sa famille. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Ce que vous récolterez servira à nourrir sa famille, et Mephibosheth mangera tous les jours à ma table. » Or, Siba avec 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Je ferai tout ce que tu me commandes. » Mais Mephibosheth a l'habitude de manger à ma table parce qu'il est un petit-fils de Saul. Mephibosheth a un jeune fils, Mica. Tous ceux qui habitent dans la maison de Siba sont au service de Mephibosheth. Comme il boite des deux pieds, il s'installe à Jérusalem. Ainsi, il peut aller manger tous les jours à la table du roi. C'est une histoire que vous connaissez peut-être, une histoire de quelqu'un en situation de handicap physique qui a été apporté en fait à la table du roi. Je suis pas au courant avec vos pensées, mais pour ma part, j'ai un vrai sens que la période paralympique, ça va vraiment donner à l'Église du roi de Jésus une opportunité unique à apporter des personnes en situation de handicap à vos églises là, en France, de les apporter à la table du Seigneur là où vous louez le Seigneur. Nous avons un invité avec nous encore aujourd'hui, Mimosette. Je veux vous donner l'occasion, Mimosette, peut-être quelques remarques d'ouverture sur ce que représentent les Jeux paralympiques pour vous. Vous êtes athlète dans le monde handisport. Vous avez participé au championnat de France de haltérophilie. J'imagine que vous avez des espoirs de participer vous-même un jour dans les Jeux paralympiques. Qu'est-ce que ces Jeux paralympiques de 2024 représentent pour vous, Mimosette?
Les Jeux paralympiques, en gros, c'est la compétition ultime, hein. C'est un peu le Graal, c'est ce à quoi aspirent tous les athlètes. Les Jeux paralympiques en haltérophilie, c'est la seule compétition où pour participer, il faut se qualifier. Il y a des critères de qualification très sévères, très stricts. C'est pas comme les autres compétitions où il faut juste s'inscrire. Parce que moi, j'ai fait les championnats du monde. Tu peux avoir commencé à faire l'haltérophilie il y a un mois et venir participer aux championnats du monde. Là, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, les World Cup aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de conditions, mais pour faire les Jeux paralympiques, pour se qualifier directement, il faut faire partie des 8 meilleurs au monde. C'est ce à quoi aspirent tous les athlètes. Et sur une période de 4 ans, les athlètes se battent pour être top 8 dans le ranking mondial et pouvoir prendre part à ces Jeux. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire les Jeux de Tokyo. Donc, c'était en période de Covid, mais je crois ça n'a pas enlevé grand-chose à l'engouement et à la joie, à la fierté de faire partie de cette grande fête du sport. Pour avoir vécu au village des Jeux pendant quelques jours, je peux vous assurer qu'il y a du monde. Il y a vraiment du monde en termes d'athlètes. Nous-mêmes qui sommes des personnes handicapées, on découvre d'autres athlètes avec des handicaps insoupçonnés. Il y a vraiment du monde et voilà, vu qu'il y a aussi une bonne brochette de disciplines paralympiques, ça fait qu'on voit, on voit du monde, il y a vraiment du monde. Donc, ces chiffres doivent forcément être exacts.
C'est certain que ça va être le plus grand nombre de handicapés dans la capitale de France. Jamais, je dirais, hein, parce que ça va être un spectacle. Des fauteuils roulants partout, des cannes pour les aveugles partout. Ça va être vraiment quelque chose de différent pour la capitale. Et est-ce que vous avez quelques remarques sur l'idée d'une invitation spéciale aux handicapés par l'Église française à cette époque? Quelle a été votre expérience vous-même d'être quelqu'un avec un handicap et l'accueil de l'Église là en France?
Bon, le véritable problème avec le handicap, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est l'accessibilité. Voilà, c'est une question qu'on ne se pose pas toujours quand on choisit peut-être le local de l'Église ou alors parfois quand on bâtit une Église. L'aspect accessibilité n'est pas toujours pris en compte. C'est la première chose qui peut être un frein à une personne handicapée pour entrer dans une église. Si l'église n'est pas accessible, franchement, ce sera tout simplement impossible. Moi, j'ai la chance qu'à l'église où je vais, il y a un ascenseur qui peut m'amener jusqu'à l'église. Bon, imaginez un seul instant s'il n'y avait pas d'ascenseur.
Nous pouvons demander peut-être, Mimosette, quelle est la nature spécifique de votre handicap?
Je suis une personne handicapée moteur ou physique. Donc, c'est des séquelles de polio que j'ai contractées dans l'enfance.
D'accord.
Donc, je me déplace en fauteuil roulant.
Moi, j'ai peut-être une question pour Mimosette parce qu'il me semble que tu es camerounaise. Où est-ce qu'on en est au Cameroun? Parce qu'on voit en France que les choses évoluent quand même par rapport à l'accessibilité. À Paris notamment, il y a beaucoup de stations de métro qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les bus, les trams le sont. Est-ce que au Cameroun, notamment à Yaoundé ou Douala, c'est le cas?
Non, c'est pas le cas.
Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée à ce sujet?
Tout est à faire et il n'y a même pas une réflexion dans ce sens qui est déjà mise sur une table. Non. Ça ne fait pas partie des préoccupations du gouvernement camerounais, de ceux qui dirigent, pas du tout. Donc, les personnes handicapées, c'est le système D. Elles se débrouillent comme elles peuvent. Parce que certains bâtiments administratifs même ne sont pas accessibles. Certaines écoles ne sont pas accessibles. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il fallait faire plusieurs écoles pour trouver une qui puisse m'accueillir, quoi. Déjà, à l'école primaire, j'ai visité 3-4 écoles avant de trouver une qui était accessible, où je pouvais rentrer dans les classes facilement. que ce soit au secondaire, c'est pareil. Il y a des établissements qui ne sont pas accessibles, les salles de classe ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. C'est-à-dire ceux qui bâtissent, ceux qui construisent, à aucun moment n'ont pris en considération l'aspect handicap. Quand j'arrive même à l'université, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de salle construite avec l'aspect handicap accessibilité pris en compte. Parce que moi, j'ai fait l'université de Ngaoundéré au Cameroun. Et quand on construisait le plus grand des amphis, moi, j'étais encore là. À l'époque, j'étais la présidente des étudiants handicapés de mon université. J'avais rencontré le recteur de l'université expressement pour lui dire que, OK, très bien, ça, c'est un bâtiment, c'est nouveau. Il doit être accessible. En le construisant, il faudrait qu'on introduise l'aspect accessibilité. Et je crois que c'est l'un des rares bâtiments de cette université qui est accessible aux personnes handicapées.
Mais parce que ça a été demandé.
Parce que ça a été demandé, oui. Parce que ça a été demandé, ça n'aurait pas été demandé qu'on aurait construit tout simplement normalement pour les personnes valides.
Est-ce que cet afflux justement de personnes à Paris, est-ce que vous savez si ça amène une réflexion derrière pour la commune, pour les collectivités, pour l'accessibilité des bâtiments, des transports en commun davantage?
Sans doute, il y a une grande pression pour eux que tout soit accessible. Bon, il va dédier des ressources sans doute pour améliorer les choses et c'est une obligation en fait pour faciliter les jeux sans problème. Donc on verra en fin de compte quand ils vont se débrouiller. Mais pour ma part, quand je transfère ces questions dans le domaine de l'Église, il y a la même question. Est-ce que l'Église se sent obligée de faire quelque chose sous l'amour de Dieu qui veut inclure tous les gens, qui veut que tout le monde entende l'Évangile? Est-ce que nous avons ce sentiment d'être obligés de faire quelque chose afin que ça s'améliore un petit peu? Je me rappelle quand j'étais pasteur ici au Pays de Galles pendant la période des Jeux paralympiques de Rio en 2006. Comme famille de Jésus, comme église, nous avons décidé d'essayer de faire quelque chose. Notre bâtiment elle-même n'était pas très très accessible, mais on a pris une décision en fait pendant la période paralympique en 2016 de tenir un culte spécial, un dimanche spécial, et on a donné le nom une célébration du handisport. On savait que à cette époque-là, parmi sur l'écran de TV, sur les réseaux sociaux, les paralympiques étaient partout, et nous avions l'idée que si l'Église s'intéressait pas aux Jeux paralympiques, s'intéressait pas aux ceux en situation de handicap, on allait voir l'Église comme sans relevance, quoi. Donc nous avons institué cette idée de tenir un culte spécial, une fête du handisport, et on a commencé à mettre en place des choses pour l'améliorer. Donc on a construit, comment on dit en français, un rampe. Mm-hmm. pour les fauteuils roulants, pour les faire entrer. Et moi, j'étais aumônier auprès d'une équipe de rugbymen en fauteuil roulant. J'ai invité toute l'équipe. On a été surpris que 80% de l'équipe est venue en fauteuil roulant et il n'y avait aucun chrétien parmi eux. J'ai aussi invité plusieurs athlètes du monde para-athlétisme galloise et parmi eux, il y avait deux chrétiens. Et on a construit ce culte que chaque chose était focalisée sur le handisport. Et on a fêté ensemble les différents dons et capacités des gens. J'ai invité les rugbymen de partager pourquoi ils s'impliquent dans le rugby fauteuil. On a fait montrer les vidéos des témoignages de athlètes étrangers, chrétiens, par exemple comme le nageur, le handi-nageur brésilien Daniel Dias, avec un témoignage très très puissant. Il était handicapé de naissance. Pour moi, ça a été quelque chose avec laquelle on a commencé. Donc je voudrais vraiment encourager les auditeurs, encourager leur église de se demander qu'est-ce qu'on fait pour commencer à construire une passerelle entre l'église et la communauté handicapée autour de notre église. Parce qu'on vraiment, on est obligé, sous l'amour de Dieu, de faire quelque chose. et de ne pas négliger de prendre cette opportunité que se présentent les Jeux paralympiques. Je lance des idées là, Benjamin, peut-être des églises françaises peuvent avoir un culte pareil, une fête du handisport. Il y a des paralympiens francophones, chrétiens, qui sont prêts à donner leur témoignage, soit par vidéo, soit en personne. Je pense peut-être à deux personnes en particulier. Il y a un nageur, handi-nageur français, Pierre Rabine de Nantes. C'est quelqu'un qui suit Jésus, qui est handicapé de deux bras. C'est vraiment impressionnant d'entendre son parcours dans la vie et dans la foi chrétienne. Donc, quand nous l'avons fait chez nous, nous avons couvert toutes les bases, quoi. Nous avons précisé que toutes les vidéos qu'on utilise étaient sous-titrées et avons l'audio description aussi, afin que personne soit marginalisé, exclu de l'expérience de louange. Mm-hmm. Nous avons invité des rugbymen sourds du Pays de Galles, dont 5 sont venus. Et nous avons comme église payé pour 2 interprètes qui faisaient la langue des signes pendant tout le culte pour eux, afin qu'ils se sentaient inclus. Donc, ça avait des implications de ressources et de bénévoles, quoi. Mais vraiment, ça vaut la peine parce qu'on a commencé à faire cette première passerelle entre notre église et notre communauté, là. Donc, je lance un petit défi aux églises françaises de considérer quelque chose comme ça. Et je ne sais pas, Mimosette, si ça provoque quelques idées pour vous. L'idée d'un culte spécial pendant la période paralympique dans les églises.
Pourquoi pas? Les athlètes, eux-mêmes, dans cette période-là, sont vraiment très, très occupés. Mmh. Mais c'est une idée qui peut faire son chemin pour intéresser les personnes handicapées à la chose. Je ne sais pas si pendant la période des Jeux, les athlètes eux-mêmes peuvent se libérer pour aller à l'église. Sinon, c'est des moments vraiment où ils sont focalisés entièrement sur ce qu'ils sont venus faire. Pour l'avenir, oui, pourquoi pas.
Et ce que nous avons observé comme église chez nous, c'est que quand nous avons fait ce culte spécial, ça a commencé à changer notre conception de ce que c'est l'église. Jusqu'à ce point-là, nous étions tous les mêmes, en fait. Les membres de l'église étaient homogènes, valides, blancs, moyen classe, disons. Mais quand on a fait quelque chose de différent comme ça, ça a commencé à bouger notre église dans la direction d'une plus grande diversité pour représenter, en fait, une meilleure représentation d'une église biblique. Peut-être les auditeurs ont écouté une émission précédente dans laquelle on a regardé les mots de Paul dans la lettre de 1 Corinthiens chapitre 12, là où il parle d'un corps composé de plusieurs parties, plutôt qu'un corps composé qu'une partie qui est la même, quoi. Donc pour nous, de faire quelque chose, un culte spécial, était le commencement de la vraie croissance de notre église dans un modèle plus biblique, là. Maintenant, l'église est maintenant beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus représentant d'un corps avec plusieurs parties qu'auparavant. Donc, je voudrais vraiment encourager les églises de au moins penser, prier, qu'est-ce qu'on puisse faire pendant les dimanches, pendant la période paralympique. Peut-être le dimanche lui-même, c'est difficile. Il y a d'autres options. Je sais que dans une émission prochaine, Kouli Dieng de Sport et Foi Rhône-Alpes, il va interviewer quelqu'un qui se spécialise dans les festivals, des festivals communautaires. Je connais pas mal d'églises dans plusieurs coins du monde, là où pendant la période paralympique, il coopère avec d'autres partenaires dans la communauté pour faire des festivals inclusifs autour de l'église. C'est-à-dire d'avoir une journée de fête où il y a des jeux pour des enfants de toute capacité, où on met le point sur l'inclusivité des jeux dans lesquels, avec intention à faire inclure ceux qui sont normalement exclus. J'imagine que quand Kouli, il interviewera Marty Woods, il va parler du sujet du festival inclusif dans les communautés. Je me rappelle, en fait, dans l'année 2019, j'étais au Japon. C'était pour la Coupe du Monde du rugby en fauteuil roulant. J'étais avec l'équipe britannique. Quand j'étais là, Marty lui-même, il était là et on a fait une formation des membres de l'église à Tokyo pour savoir faire comment faire un festival inclusif dans leur communauté. Et on l'a démontré, en fait, devant un gare en Tokyo. On avait un espace et on a fait un festival inclusif et ça tombe à moi de donner une expérience de Sissy Foot. On avait des gens aveugles, on avait des gens qui voyaient et on a fait une expérience inclusive avec les bandeaux afin que tout puisse participer. Donc, quelques idées, Benjamin, pour donner à l'Église parce que vraiment, selon moi, les Jeux, ils représentent une occasion unique. Les Jeux, sans doute, ils vont laisser un héritage en quelque sorte dans votre pays. Les Jeux paralympiques vont laisser un héritage en ce qui concerne le handicap, en ce qui concerne la réhabilitation de l'handicap dans la société française. Voilà la question sur mes lèvres. Est-ce que l'Église engagera, elle laissera un héritage spirituel pour le monde de l'handicap dans la société française? C'est une opportunité sans précédent pour impacter votre société, pour faire que l'Église soit plus biblique dans le sens d'être constituée de plusieurs parties bien différentes, comme un corps avec plusieurs parties. Je termine avec les mots de Jésus lui-même à la fin de l'évangile de Matthieu. « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Allez chez tous les peuples, pour que les gens deviennent mes disciples. » Je dirais pour conclure à Benjamin que le regard chrétien sur l'handicap, c'est vraiment que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mm-hmm. Nous avons tous même valeur dans les yeux de Dieu. Et Jésus nous appelle à aimer les gens que la société néglige et exclut. Chacun, bien sûr, a des différentes compétences et différentes expériences à contribuer vraiment dans une compréhension biblique. Sans les personnes handicapées, sans leurs dons, l'Église est incomplète.
On aura passé en tout 2 heures avec toi, Steve, et je crois que ces 2 heures n'étaient pas du tout de trop. Ça remet un petit peu l'Église au milieu du village. Une belle expression française pour dire que ça nous remet un peu les idées en place et ça nous ramène à l'idée que l'Église est un corps avec toutes les personnes qui en font partie et les personnes en situation de handicap en font partie avec leurs dons et sans elles, l'Église n'est pas complète comme tu viens de le dire. Et j'espère de mon côté et je prie que tout le travail de l'Église qui est mené pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques va devenir pérenne pour amener l'Église dans une plus belle et plus grande inclusivité, notamment des personnes en situation de handicap. Il y a eu un travail qui a été fait ces derniers siècles pour l'inclusivité des peuples dans l'Église, pour la lutte contre le racisme dans l'Église. Aujourd'hui, je crois que ce défi-là a été atteint. Aujourd'hui, je crois que l'Église évangélique, en tout cas, accueille tous les peuples et ne fait pas de distinction. Tout le défi et tout le travail est du côté du handicap pour une plus grande inclusivité. Donc merci pour ces 2 heures passées avec toi Steve et tous tes invités, c'était vraiment très intéressant.
Que Dieu vous bénisse et vous encourage mes frères et sœurs.
Ouais. À bientôt.
Dans le prochain épisode, je reçois en effet Marty Woods pour parler de ces fameux festivals de communauté. Vous retrouvez ce podcast sur pharefm.com et sur les plateformes de streaming. Il est proposé par la coordination Rhône-Alpes de l'association Sport et Foi.